Oui, c'est ça. Allez, et finalement, on est très présentable dans ce programme-là, dans celui-là, parce que je pense qu'il est fini avant Hanouka, le problème de la liberté. Et finalement, on a fait surtout des introductions. Et de prendre un deuxième problème, déjà dans le mois de novembre. Ensuite, il va y avoir fait ça, l'année va passer très vite. Et alors, ce que je vous suggère, pour se remettre dans le bain, on va essayer de débroussailler les grandes questions que nous aurions en suspens sur les questions de définition, de logique, mais pourtant sur les contenus du cours, ou même dans votre cours, si vous en avez eu, commence un peu à connoter le vocabulaire. Et on va essayer de faire simultanément les brevets en français, puisque vous donnez tout ça. Et alors, à partir de dimanche, de jeudi prochain, bon, il nous restera, je suppose, 4 cours dans le mois de janvier. Okay. Et alors, on avait 2 cours pour traiter le problème de la liberté et 2 cours pour traiter le problème de la tshuva, qui est relié au problème de la liberté. Alors, en tout cas, pour le problème de la tshuva, je vous demanderai d'essayer vraiment d'étudier très en détail, en hébreu, les 10 versets que vous avez appris tout à l'heure, c'est-à-dire chapitre 30. Les 10 premiers versets, vous lisez tout le chapitre, vous lisez ce qu'il y a avant, vous lisez ce qu'il y a après. Mais d'avoir bien en tête ces 10 versets, vous avez 15 jours pour ça, vous avez le temps. Hein, si on n'a pas eu notre défense entre temps. Bien, à quelle heure vous êtes prévu là, la cérémonie pour le bébé. Chut. Alors, dis-moi à quelle heure, parce que j'ai un calendrier. C'est la première fois de ma vie que je vais fêter la Saint-Sylvestre. Alors, vous apporterez, je dirais, un Torah quand même, vous apporterez le livre de Brigitte, et je vous parlerai un peu. Un petit peu de la sidra de la semaine parce que ça correspond par hasard. C'est la rue Saint-Lazare.
Et le jour aussi, c'est un hasard.
Ah, ça commençait pas sur ce jour-là. Bon, disons, il y a un passage de la sidra. Bien. Alors, alors, je suppose qu'on va travailler un petit peu détendu, mais sérieusement. Alors, est-ce que vous avez des questions qui sont posées à vous d'abord dans ce cours-là? Toutes les introductions que vous avez eues sur, d'abord, qu'est-ce que c'est la philosophie par rapport à la tradition, qu'est-ce que c'est la tradition prophétique par rapport à la philosophie. D'autre part, le problème de la définition du caractère spécifique de l'identité humaine. Je me proposerais de faire un passage à la morale. Je ne sais pas ça dans mon voyage, certainement. Je ne vous ai pas donné une référence à la Gemara et à Rachid. Alors, vous pouvez envoyer à Rachid sur le verset 7 du chapitre 2. Ça vous dit rien? Bon, prenez le livre de Brigitte, prenez 5 minutes. Ah oui, je me souviens, vous avez vu qu'on a un Shabbat.
Oui, avec David et les feuilles.
Non. Et vous avez donc les feuilles de la Gemara, ok?
Non, on n'avait pas eu les feuilles.
Vous n'avez pas eu?
Non, on n'avait pas eu les feuilles.
Bon, c'est pas le secrétaire de séance, là. On note ça quand on prépare cette conférence. Qu'est-ce qu'il y avait comme question en suspens?
C'était que,
tu n'as pas noté?
Mais il n'était pas encore.
J'étais pas encore secrétaire de séance.
Non, mais à partir du moment où je te dis.
Hier,
oui. Il y avait 3 questions, mais 5 minutes. J'ai dit non, je vous envoie la réponse. Bon, alors à partir d'aujourd'hui, tu fais ça sérieusement. Bien, alors finalement, si vous voulez, je vais rentrer brièvement la définition que vous avez eue avec vos amis d'ailleurs, et que le caractère spécifique de. Ah, tu dis que tu es en cours, je me rappelle un peu. Le caractère spécifique de la définition de l'homme, c'est. D'abord le genre prochain, la classe la plus grande, le clan le plus grand que l'homme, c'est. Hayamdavé. Ça veut dire le vivant parlant. Je vous avais signé, il me semble que je vous avais signalé ça très rapidement, avant même que vous ayez eu le séminaire avec Beno, avec les différents niveaux d'être. Elles sont définies par la tradition, par les termes qui tous correspondent à la parole. Vous vous rappelez de ça? Bravo. Alors, c'est le premier niveau. Quel est le premier niveau? Je m'appelle
domaine.
Domaine, ça veut dire le niveau inerte. Minéral, mais littéralement, domaine, ça veut dire silencieux. Très bien. Ensuite, le deuxième niveau, sommaire, le végétal. Vous avez indiqué que là aussi, il y avait l'idée du commencement de la parole, le murmure. Comment ça se dit le murmure en hébreu? Le murmure des lèvres. Sia.
Sia.
Sia. Sia. Et le mot de Sia, ça veut dire déjà la végétation. Vous l'avez appris? Alors, comment on dit des buissons? Des arbustes? Cyrure. Alors, Siars Fadaïm, ça veut dire le murmure des lèvres. Alors, c'est très frappant de voir qu'en hébreu, ces deux registres correspondent. En réalité, l'intention du Kuzari, c'est de définir les règnes tels que tel ou tel système de science ou de philosophie les définirait. Peu importe les vocabulaires précis qu'il y a dans chaque doctrine, mais. C'est à peu près les mêmes règles, c'est-à-dire le minéral, disons l'inerte. Disons, parlons plutôt en tant qu'objet des sciences. L'objet des sciences physiques, c'est le domaine. Hein? L'objet des sciences déjà biologiques, non pas biologiques avant biologiques, comment on appelle ça? Zoologiques, c'est les animaux. Botanique. Donc, siar, sommaire, avec un tzadek. Hein? Ensuite, le haï, biologique. Puis le Hayam Daber, l'homme. Puis la classe supérieure dont je vous avais parlé déjà dans votre séminaire, c'est le Navi. C'est-à-dire là où Inyana Eloki émerge. Ou est reçu. Je ne voudrais pas dire est incarné, enfin, à cause du sens chrétien, mais finalement, c'est le mot exact qu'il faudra employer si le français était resté une langue goy. Pure et pas une langue christianisée. Ça veut dire littéralement incarné. Quel est le lien de définition entre le Hayam Daber, c'est l'homme, tout homme est capable de parole, Hayam Daber, et le Nami? Quel est le lien de définition? Le Navi est un Hayam Daber, mais avec une précision supplémentaire, avec un caractère spécifique plus grand en tant que Navi. Hayam Daber, mais.
Avec
le Yanaïm. Oui, mais ça, si. Écoutez, en général, c'est une personne qui ne sait rien. Il doit comprendre dans le jeu. Là, je me rappelle le mystère.
Faculté de capter le divin.
Pardon?
Une faculté de capter le divin.
De
capter le divin. L'exemple du poste de radio, vous avez dit.
Je crois que c'est clair. Si tu me disais encore la parole de Dieu, je comprends, avec l'exemple du poste de radio. Mais c'est toi qui as dit la perception du divin. C'est aussi pas clair. Quand c'est capté le divin. Je répète, je ne sais pas, vous allez me rappeler si à ce moment-là on a vu cela. Il y a une différence de nature, alors ce n'était pas la recours. Une différence de nature entre l'expérience spirituelle et religieuse chez les juifs et l'expérience spirituelle et religieuse en Israël. Est-ce que ça veut dire parler de ça?
Non.
Non. L'expérience religieuse chez les goïms, et c'est ce vocabulaire que vous avez tendance à employer, c'est que ça va de l'homme vers Dieu. L'homme cherche son idéal. Et il se projette dans un infini parfait, et c'est ça son Dieu. Son idole. Il y a le passage à la limite de l'identité humaine, divine. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire le chemin du sentiment religieux, de l'existence religieuse, je vous envoie des mots théologiques, de la quête du divin, les protestants parlent très bien comme ça, la quête. Vous voyez à peu près tout ce charabia là, où ça mène? Ça mène à des idoles. Ça veut dire ça mène à une espèce de passage à la limite du parfait de sa propre identité. Vous avez compris, on appelle ça un idéal. Et c'est le même mot que idole. Donc je vous chahute un peu le sujet, mais pour que vous alliez vite. Bien que le rabbin Vénère ait la raison, il ne faut pas faire des bons, on va faire un petit peu des bons. Tandis que, qu'est-ce qui se passe pour l'Israël? C'est l'inverse. C'est le divin, si j'ose dire, qui fait l'irruption dans l'histoire et qui s'adresse à Israël. Il ne s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à celui qui est préparé à l'ensemble. C'est vrai? Nous avons parlé d'Abraham, déjà dans ce cours, avec vous. Je suis en train de mélanger les deux cours. Abraham n'est pas n'importe qui. Il y a toute une préparation qui fait que Dieu s'adresse à lui. Mais l'essentiel, dans le récit biblique, c'est clair, c'est le fait que Dieu s'adresse à lui. Vous avez compris, quoi. Vous avez un peu une formule ici. Il y a, si l'alliance est contractée entre Dieu et l'homme, alors on est sûr, c'est irréversible. Si l'alliance est contractée entre l'homme et Dieu, là, tous les arbitraires sont possibles. Aujourd'hui, je mets l'alliance, demain, il en est. Vous avez compris? Alors, encore une fois, ce n'est pas n'importe qui avec qui Dieu contracte alliance. Il y a une préparation, une émergence. C'est Abraham se dirige vers là où il fallait se diriger. Alors, il y a révélation. Okay? Mais je vous ai comparé une fois, en parlant d'Abraham, là je pense que c'est ici, le Dieu de Voltaire et le Dieu d'Abraham. Vous vous rappelez? Vous avez vu? Vous avez vu le Dieu de Voltaire s'adresser à Voltaire et fonder une histoire, le peuple de Voltaire. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, l'homme va vers une idée de Dieu qui est muette, qui ne parle pas. Et celui qui entend Dieu voir, c'est donc le veut. Il y a des adresses. Vous avez compris le problème. Donc, il y a un mouvement absolument inverse. Donc, la perception du divin, c'est un vocabulaire mystique qui peut être absolument païen. La perception de la parole de Dieu, ça est une révélation objective. Et nous savons que le long de l'histoire, il y a eu des moments du temps où cette révélation objective était expérimentale, la trace qui en reste, c'est ce livre, okay. Et il y a des moments du temps où elle a cessé parce que le post-récepteur est détraqué, peut-être qu'il est en train de s'arranger, on a parlé de ça. Okay. Mais nous, il n'y a pas en question.
Alors, du fait que c'est pas n'importe qui que Dieu s'adresse, donc il y a déjà une préparation de l'homme, on retrouve le premier mouvement.
Je
vois pas comment.
Mais c'est pas le premier mouvement qui fait l'expérience religieuse, c'est le deuxième qui l'authentifie.
Le premier mouvement.
Mais on n'est jamais pas vocabulaire, parce que le mot de Dieu est employé à la fois par les païens de cette expérience mystique d'une religion naturelle. L'homme à la recherche de son Dieu, c'est-à-dire de son parfait, du parfait de son imparfait. Hein? Ça, c'est une vie spirituelle qu'on peut décrire, un phénomène culturel très important. C'est pas du tout de ça dont parle la Bible lorsqu'elle parle de la religion de Dieu. C'est le créateur du monde qui s'adresse à sa créature. Il y a des mystiques dans le judaïsme, mais c'est pas cette expérience mystique qui fait qu'ils sont juifs. Il veut dire une grande règle qui permettra de comprendre les différences. Vous avez probablement lu des ouvrages écrits par des mystiques. Saint Thérèse d'Avila, Jacques de Compostelle, enfin tous ces grands mystiques. Bon. Ben, ils vous mettent leur trip en dehors, ils vous racontent leur vie affective, ils vous racontent ce qui se passe en eux. Ça, vous ne trouverez jamais dans le livre. Ça me regarde à moi tout seul. Il y en a pas plus. Vous comprenez le problème. C'est indécent de mettre ses tripes en dehors en parlant de Dieu. Il y a des pages de Saint-Élas de la Sainte Rebelle qui sont absolument impudiques, indécentes. On fait l'amour et le bon Dieu. Ça existe, mais c'est dans la vie privée, la vie intérieure, c'est la vie culturelle, la vie spirituelle, la vie mystique. C'est pas la religion de Dieu. Vous comprenez le problème. Et le mouvement est absolument inverse. Alors bien sûr, la révélation ne s'adresse pas à l'époque. Moi, je crois surtout que l'exemple de Prince. Mais c'est un problème d'identité. C'est pas un problème d'exercice spirituel essentiellement. Mais c'est un problème d'identité morale. Mais la grande différence qu'il y a de deuxième principe, si vous en avez suivi, entre les prophètes hébreux et les autres prophètes, je vais parler de Moïse et Bilal, vous vous rappelez, c'est dans la prophétie hébraïque. La religion et la morale, ça fait un, c'est la même chose. Alors partout ailleurs, c'est séparé. Il y a l'expérience morale d'un côté, l'expérience religieuse de l'autre. Vous voyez par exemple un des titres, le titre d'un des livres les plus importants de Bergson, les deux sources de la morale et de la religion. Dès le titre, c'est un livre pas juif. Il fait par un juif, un livre pas juif. Et il a vous dit, les pieds joints et les mains aussi, au final. Ça fait bien la conscience. Bien. Alors cette préparation, elle est de l'ordre de ce que nous avons en hébreu, le Téréphérette. C'est dans la famille d'Abraham que le Téréphérette s'a réussi. Alors Dieu s'adresse là. Et pas ailleurs. Sinon, nous aurions cette image, il me semble que j'ai parlé d'un cours des experts. Nous aurions cette image. Dieu s'est dit un jour, bon, il faut que je sauve cette humanité. Par qui je vais commencer? Alors il a jeté sa ligne, la pêche à la ligne, c'est tombé. À Orpès dit, Abraham. Et ce mythe. Et la grâce arbitraire. Ce genre de théologie ne va jamais que dans les cerveaux d'égoïsme. La Torah a pris la précaution de nous raconter l'histoire d'Abraham, comment le Hénien Ayoti est passé d'Adam à Richon jusqu'à lui. Donc il n'est pas n'importe qui. Il y a toute une préparation de 20 générations pour réussir à engendrer Abraham. Je ne sais pas s'il y a une césarienne pour que quelque chose de... Il devait y avoir déjà un César avec toi.
Dans ma migrèche route, il y a un Hana Kazo.
Ok. C'est la Kaha, Arbezman, Ajaïna, qui dérèche l'autre, dérèche moi, il y a le. Vous avez compris ce qui s'est passé en chemin? Deux routes, je vous ai promis de vous parler dans le cours prochain. Mais c'était suivi. Il fallait prendre la route. Alors, qu'est-ce que je disais? Je pose ma question. Réfléchissez bien. Quel est l'élément de définition qui vous fait passer de Hayam Baber à Navi? Réfléchissez logiquement. Hayam Baber, le vivant parlant, le vivant capable de parole. Et rappelez-vous, pourquoi c'est très important d'avoir choisi entre Hayam Askin, le vivant pensant, et Hayam Baber, parce que derrière le Hayam Baber, il y a vraiment une personne, un sujet, un ami. Derrière le Hayam Askin, il peut y avoir un golem. C'est qu'est-ce un golem? Un ordinateur.
Ça pourrait pas être le vivant qui entend.
Celui
qui
n'est pas
en tant que
personne. C'est une des dimensions. C'est une des dimensions, mais elle est à l'essentiel. Suivez la ligne de définition. Silencieux, murmurant, vivant. Là, il y a un problème avec les animaux. Tous les animaux auraient eu d'un coup, puisqu'ils étaient vivants, vivants parlant. Je vous ai peut-être cité ça une fois. Le mystère de l'ânesse de Bilal. C'est pas pourquoi il y a une ânesse qui a parlé, c'est pourquoi les autres ânesses n'ont pas parlé. Vous avez une bouche quand même. Retenez toujours le même schéma. Un homme, c'est pas un animal devenu homme. Un animal, c'est un être vivant qui n'est pas arrivé à être. Il s'est essoufflé avant. Vous avez compris l'idée? C'est vrai?
Le singe vient de l'homme.
Qui a dit ça? C'est une question ou une affirmation?
C'est un midrash.
Non, il y a certains hommes qui sont devenus des singes. Et d'ailleurs, il suffit de fouiller les albums. Vous connaissez, comment il s'appelle ce caricaturiste là? Vous avez vu les albums de Dubois?
Le Restitut. C'est écrit dans le petit livret que vous nous avez donné, l'histoire de Ezra.
Oui, il y a un village comme ça, il y a un certain nombre de villages qui ont été punis par malédiction. Ils sont devenus des hommes de nature. Alors ils ressemblent à des singes. Et on pourrait dire ça comme ça. C'est que on peut observer des phénomènes de régression. Mais même ces singes-là gardent une certaine participation à l'identité. C'est pas la même chose qu'un animal qui n'avait jamais reçu de naissance. Vous comprenez, c'est la manière dont le corps a le courage de se faire qui fait qu'une neshama peut venir ou pas. Et la paix. Vous voyez pourquoi on doit tellement de respect aux parents? Parce que c'est eux qui nous ont fabriqué notre corps. Et la plus grande irresponsabilité, c'est de fabriquer ça sans règle. Vous comprenez? Il y a des lois pour ça. Pour élever des petits pois, il y a des règles. Alors, comme la grand-mère pour faire des petits enfants.
Alors, le corps de Klal Israël, c'est Eretz Israël?
Le corps de Klal Israël, c'est le gouffre de la Marichon. Choufra. Il y a un goût à lui.
Vous avez déjà parlé de la différence entre homme et la vie. Vous avez dit, ce qui fait la vie, c'est celui qui comprend l'histoire.
Alors, comme nous avons parlé à notre cours des dimensions de qu'est-ce que c'est un avis, une des dimensions. Vous avez vu comment la réunion vous a illustré cette définition de l'avis. Vous avez suivi cela. C'est la définition de la compréhension de l'histoire. C'était une des dimensions, on a vu l'autre. Je vous avais donné quatre, vous vous rappelez? Compréhension de l'histoire, l'éternité.
Fraternité.
Bon, il y en a 13. 13, principal. Non mais, revenons dans un exercice purement logique. La définition de l'homme, c'est Hayam Daber. La définition du Navi, c'est... le degré supérieur, c'est le Navi. Bon, le Navi aussi, c'est quelqu'un qui parle. Mais différemment que n'importe quel Hayam Daber. Quel est le passage?
C'est le mot
de portabilité. Voilà, c'est le mot vélité. C'est-à-dire, c'est le Hayam Daber Vehemet. C'est-à-dire, le vivant parlant, disons vraiment, parlant vrai.
Est-ce qu'il écoute la parole de Dieu?
Bon, bien entendu. Et alors, il est donc porte-parole de la parole de Dieu. Il n'y a qu'une seule parole vraie, c'est la parole de Dieu.
Est-ce qu'il mérite?
Je ne sais pas si c'est un jour que je vais citer cette définition en français. J'ai entendu parler des livrets Torah. Les livrets Torah, les paroles de la Torah. Mais il faut savoir que la Torah est livrée. C'est ça les livrés.
Et même pour Bilhan, il a dit la vérité.
Oui, il a dit la vérité malgré lui.
Malgré.
Il voulait dire un mensonge, il a dit la vérité malgré lui. Il voulait dire une malédiction, il a dit une bénédiction malgré lui. Mais une bénédiction, mal intentionnée. Par exemple, je vous donne une petite anecdote qui me revient de l'envie de soldat. Si jamais vous dites à un sous-lieutenant, mon capitaine, il vous met en prison. Pourtant, vous lui avez dit grand, vous lui avez fait une bénédiction, vous lui avez souhaité être capitaine. Moi, en même temps, vous lui avez dit, hein, t'es pas capitaine, ce n'est que lieutenant. Et vous voyez ce que je veux dire, il y a des bénédictions qui sont, on dit subrepticement, malicieuses. Il y a un mot précis. Donc, qu'il y a un grand clair dans ce début de la Gemara de Psachim, le traité qui parle de Pessah, c'est qu'on peut connaître quelqu'un par sa manière de parler. On peut savoir qui il est. On peut formuler ça de cette manière. Dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es. Je vais aider votre langage. Il suffit d'entendre parler de quelqu'un pour savoir qui c'est. Il y a tellement de gens qui se disent. C'est une phrase de la Mishnah. Et je n'ai rien trouvé de meilleur pour le corps de l'homme, ça, il faut expliquer pourquoi la goutte, hein,
que le silence.
Seulement pour dire ça, il faut parler.
Pourquoi la goutte? Qui a étudié cette Mishnah?
Toi,
tu la connais?
Koliyamai gadalti ben hachamim, velo matzati la goutte au Mishnika. Pourquoi la goutte?
Je vais l'accher.
Non?
Je vais l'accher.
Ayom el haoze. Pourquoi la goutte? Réfléchis si tu trouves la réponse. Une autre question. Alors, où est-ce que nous étions? C'est ça, c'est la réponse. C'est-à-dire, au fond, vous comprenez bien que n'importe quel Hayam Daver pourrait être Navi. Il faut, mais il suffit qu'il soit tel qu'il dise la vérité. La vérité, bon, avec un grand V, que ça être Navi. Alors là aussi, nous avons le point de vue de la langue, le même terme. Vous connaissez le mot Tnouva. C'est la Tnouva. La coopérative de la récolte. Comment on dit la récolte? Non, c'est un Géboul, c'est un autre racine. Tevoua. C'est la même racine que le mot Nevoua. Alors, vous avez le mot Niv. Qu'est-ce que veut dire le mot Niv? Niv. Vous comprenez?
Niv.
Non, parce que moi, j'ai appris l'hébreu en Sfaradi et le bête, qui est un dagué, je prends l'habitude de dire bête. Donc, je m'habitue au bête. J'avais mis un bête. C'est-à-dire Niv? Niv. Non, c'est pas exactement un proverbe, c'est une expression particulière à une langue. On appelle ça un idiome. Niv, ça veut dire l'expression de l'air. Boré Niv, Svatayim. Vous voyez, on peut comme si Ah. Niv. Navi. Niv. Le Navi, c'est celui qui sait parler en vérité. Une sorte de capacité, en fait, objectivement, surhumaine par rapport au Chayam Daver. Vous connaissez cette fable des autres, qu'avec la langue on peut dire ou le bien ou le mal, ou la vérité ou le mensonge. En fait, la langue des autres. J'oublie le détail de cette fable, enfin, l'idée générale. Bien. Alors, voilà l'élément de définition qui nous fait passer de Chayam Daver à Navi. Alors, ceci dit, il y a d'autres mots. En hébreu, il y a d'autres termes que vous apprendrez pour indiquer cette capacité du Navi. Il y a énormément de degrés aussi chez les Nevi'im. Pas tous les Nevi'im ne sont au même degré de capacité de Nevoua. De la même manière, il y a infiniment de degrés chez le Hayam Daver. Habituez-vous à ce clave. En toute définition, toute chose, il y a une infinité de degrés. Il y a le Hosé, celui qui sait voir. Il y a le Roé, celui qui voit. Rosé et Roé, c'est un peu la même chose. Il y a le Chomea. Il y a toutes les possibilités à ce niveau-là, du point de vue des niveaux et des Bien. Il y a un verset d'Isaïe qui fait un peu l'illusion à ce que j'ai dit toi tout à l'heure. Tu vois, c'est quand Isaïe dit Dieu parle et je n'ai pas détourné l'oreille. C'est-à-dire, au fond, un ami peut parler parce qu'il n'a pas détourné l'oreille. Bien. Alors, je crois que nous allons retenir cela, disons, provisoirement, comme définition de la spécificité de ce qui est l'identité humaine. C'est la capacité de parole en tant qu'elle dévoile qu'il y a un sujet, qu'il y a un quelqu'un. C'est-à-dire, en fin de compte, on arrive à une chose simple que vous aviez dit plus ou moins d'ailleurs dans votre intervention. C'est-à-dire que finalement, c'est la capacité de Neshama. Alors, je vais vous expliquer ça très rapidement. Chez les espèces animales, l'espèce entière a une Neshama. Tandis que chez l'homme, chaque individu est censé avoir une Neshama. Pourquoi je dis est censé avoir? Parce que ça dépend de la capacité de réception de cette Neshama. Parfois, on n'a qu'une vague étincelle. faut se mettre à tout un peuple pour avoir une nation. Alors comprenez bien l'importance du groupe. Pourquoi par exemple pour le Sud-Aïk on dit bien. C'est-à-dire, justement, tout seul, elles ont une échappe.
Toujours.
Oh. La capacité d'une échappe est une de notre nature. Et là, c'est-à-dire il y a une instance différente, une instance autre qui est celle de la société. La différence qu'il y a, si vous voulez, entre une somme d'individus et un club, un groupe comme tel, apparaît une instance qui dépasse la somme des individus. C'est comme si vous avez dû l'expérimenter dans la vie de tous les jours. Bon, là ici, il y a des instances très différentes, un phénomène de foule. Ce n'est pas une société. Et vous apprendrez les termes hébreux qui correspondent à un Kaal, une Aïda, un Ram, un Ma. C'est des niveaux différents. Mais il est bien évident que lorsqu'il y a un être collectif qui s'est rassemblé à travers les individus, il y a une instance d'un autre ordre qui apparaît. Elle est invisible. C'est un être spirituel, social, mais qui apparaît. C'est un peu déjà, ça vous expliquera un peu mieux déjà, la définition de l'ordre de la Shrine. Par exemple, lorsqu'on fait le Zigmund et qu'on est trois, la formule n'est pas la même que si on est 10, elle n'est pas la même que si on est 100, elle n'est pas la même que si on est 1000, que si on est 10 000. Parce que la présence de cette instance qui correspond à la Neshama de la collectivité est de plus en plus dévoilée. Enfin, dévoilée, pas visible, mais de plus en plus présente. Bon, pourquoi je vous parlais de cela? Je disais en réalité, faites une différence en français entre le terme d'individu et le terme de personne. Nous sommes tous des individus, mais il y a peu d'individus qui sont vraiment une personne à eux tout seuls. Il y a une étincelle de cela. Mais en principe, la dignité de l'individu, de l'espèce humaine, est que chaque individu est donné à être une personne à lui tout seul. Et c'est ce qu'on appelle dans l'histoire de la philosophie, et ça a été traité surtout par Jean, le principe d'individuation. C'est pourquoi Dieu se révèle à Israël, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, en tant que quelqu'un, et pas comme la divinité en général impersonnelle. En disant son nom. Le principe d'individuation. Bien, je voulais aborder des notions à ce sujet. Bon, je reviens sur la première ligne. Alors, bien, attention à ça, il y a des âmes, des neshamot de nature différente. Chacune correspondant aux espèces vivantes. Chaque espèce animale a sa neshama. Et ce sont des réalités très grandes, ce qu'on appelle les hayot akodesh. L'espèce entière a une neshama.
C'est l'espèce qui a une neshama.
L'espèce entière.
Chaque animal
est un individu qui participe. Je ne voudrais pas trop rentrer dans les catégories philosophiques, mais je dirais au moins un principe important. On a remarqué ceci, on s'est confirmé d'autre part par la sagesse, par la tradition, on a remarqué ceci. Il y a une grande différence entre le sentiment de l'homme et le sentiment de l'animal par rapport au problème de l'amour. L'amour. L'animal, semble-t-il, n'a pas expérience du sentiment de l'amour. Pourquoi? Parce que l'espèce ne meurt pas. Tandis que l'homme a le sentiment de l'amour à l'échelle individuelle. Pourquoi? Parce que chaque homme, tout seul, c'est l'humanité du monde. Je viens de lire récemment un livre Kessler, Arthur sur Kessler, où il indique dans un chapitre que peut-être nous sommes arrivés à un temps où l'espèce humaine, en tant que telle, est en train de découvrir ce sentiment-là. Parce qu'elle sent qu'elle risque de disparaître comme telle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais jusqu'à présent, l'homme n'était pas préoccupé par l'idée de la fin de l'espèce humaine. Mais il est sensible, vulnérable à l'expérience de la crainte de la mort individuelle. chose que l'animal n'en a pas. Je vais citer un grand philosophe contemporain, qui n'a rien à voir avec la tradition juive, mais en fait, il s'intéresse beaucoup à cette chose-là. Il s'appelle Etan Morin. Vous avez entendu parler de lui. Il a écrit tout un traité là-dessus. Et on voit bien cette différence entre le sentiment existentiel de la mort qui n'existe pas chez l'animal. Sinon, se forme extrêmement inconscient. Il y a certains animaux qui, à certaines circonstances, ont peut-être un pressentiment très, très inconscient, qui va se passer quelque chose pour eux, ça se sent dans leur conduite. Par exemple, quand des animaux de fourrière, quand on essaie de capturer un chien dans la ville pour le mener à la fourrière, il y a une espèce de réaction qui est presque un sentiment de crainte de la mort. Bon. Et alors, ça c'est important, c'est très important à comprendre. C'est que il y a une sorte de destinée, de dimension de destinée dans l'identité humaine, dont nous longuement parlé de cela à un certain moment, qui fait que, au fond, notre destinée se définit comme cela, que l'individu arrive, en fin de compte, à incarner sa personne, de devenir une âme à lui tout seul, d'arriver à incarner toute son âme. Je vous dire ça sous forme d'image. Au début de l'histoire de notre destinée, eh bien, une petite quantité d'âme qui est absorbée par le corps. Et la personne est très, très, très petite, très, très, comment dire, de petite envergure. Okay. Et puis, toute l'histoire, elle consiste à arriver à coïncider avec cette personne que nous devons être. Alors, la plus grande quantité de la lumière de cette âme reste à l'extérieur, loin. Mais elle ne nous laisse pas tranquille jusqu'à ce que nous soyons capables de l'intégrer. Vous avez compris? Et quand tout se passe bien, il suffit d'une vie. Ben, s'il n'a pas suffi d'une vie, on reprend le problème là où c'était arrêté. Non, on s'est arrêté. Mais on ira jusqu'au bout. Alors, il vaut mieux y aller. Et par exemple, l'expérience du renouvellement de l'être chaque matin. Chaque matin, quand tout se passe bien, normalement, l'âme est plus intense que la veille. Vous n'avez pas remarqué cela, que des fois vous vous levez le matin, non seulement renouvelé, mais enrichi. Je ne veux pas dire vieilli, mais enrichi. C'est-à-dire sachant plus que la veille. Comme si s'était passé quelque chose dans le sommeil. On peut vous raconter ça sur une image, mais c'est l'idée qu'il faut retenir. Hadashim avec Abiyou, là-bas, il y a le verset qu'on dit tous les matins. Le matin, on se réveille renouvelé. Un mystère. Il y a plusieurs mystères comme ça dans l'existence humaine qu'aucune philosophie n'est arrivée à expliquer. Par exemple, le goût de la nourriture, il n'y a pas l'habitude ne joue pas. Le goût du pain, on l'a beau, on ne s'habitue pas. Le goût du pain reste vierge chaque fois. Quand on a perdu le goût du pain, c'est grave, c'est le signe qu'on est très malade. Mais oui, on s'habitue à tout. Et puis voilà qu'on ne s'habitue pas au goût des aliments. Heureusement, sinon on fumait, on aurait pu manger. Il n'y a pas de dégoût, si c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un parfum. Chaque fois que vous respirez un parfum, vous avez une émotion renouvelée. Or, normalement, si l'habitude jouait, eh bien, l'immense, on pourrait plus. Remarquez que nous vivons dans un temps de vie artificielle où les fleurs n'ont plus de parfum. Je ne sais pas si vous avez une fois respiré des fleurs qui ont vraiment un parfum. Mais, enfin, nous, on avait des villages avant la guerre, les fleurs avaient vraiment un parfum. Aujourd'hui, les fleurs sont artificielles, sans parfum. Plus rien n'a de plus. Quelque chose s'est passé. Hein. Bon, vous allez me dire, ça vient des Anglais, ça vient de tout ce que vous voulez. Bon, ça c'est des causes secondaires, sauf un événement massif s'est passé. Le parfum des fleurs a disparu. Je me souviens du temps où le goût d'une pomme, oubliez le jardin, enfin le goût du bois, c'est le bois bien en époque, mais enfin, le goût d'un fruit, c'était un goût de fruit. Alors que maintenant, tout en s'uniformisé, bon, peut-être pas en hérédite royale. Non, on reçoit souvent des gens, des étrangers, ils ont plaisir à manger les fruits. On ne sait pas combien de temps ça va durer avec l'exploitation industrielle dans les kibbutzim, en fait, un homme tombé.
Mais quand même, quelque chose.
Bon, de comparer, là. Ah oui, renouvellement, je ne sais pas. C'est-à-dire que tout se passe comme si nous avons une quantité d'âmes à réaliser. Et au fond, c'est elle qui fait qu'un homme s'installe. Et pas seulement un haï. Qui parle quand je parle? Ben, c'est pas ma bouche. C'est moi. Et qui c'est ça, moi? Vous voyez? À quoi ça rapporte? Je dis, nous, on va à la maison. Tu fais? Oui.
Alors moi, sous prétexte que par un mystère, j'ai mieux intégré ma neshama, je suis condamnée à prier toute seule. D'abord, la dune ne m'oblige pas à prier. Et secondo, je suis condamnée à prier toute seule.
Je ne crois pas que ce soit le sujet maintenant. Parce qu'il faut d'abord qu'on aborde ce sujet en général. Mais je vous parle de ça en détail. C'est le mot qui me gêne. Condamné.
On s'aime quand on est 10. C'est évident qu'il y a une force.
Oui, non, mais on parle de ça autre bouche. Je ne peux pas répondre à des questions qui ne sont pas obligées de ça.
Okay.
Mais on étudiera sur ça.
Quand tu parlais de l'échama, c'est aussi bien pour les juifs ou pour les autres nations.
Que?
Pour les autres nations, c'est pour les gourous ou pas?
De ça, tu
les autres.
Attends, est-ce qu'on a déjà traité de cette question en cours?
On
a discuté. On a discuté dans le cours. Alors, méfiez-vous, oui, je crois que ça me revient plus ou moins vaguement. Et je vous l'ai dit souvent, il y a plus vous arrivez d'entendre des histoires de ce genre très mal formulées, parce qu'on a traduit mal de l'hébreu en français.
Ah, ça vous dit, Damien.
Et puis, on devait dire, Damien, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Bon, alors rappelle-moi comment il dit. Je vais donner une réponse, puis ça pose la question. Oui, les goyim aussi ont une âme. Mais de la même manière qu'il y a une différence entre les peuples, il y a une différence. Il y a une différence entre les peuples entre eux. Bon. Non, parce que tu as pu entendre peut-être.
Non,
d'ailleurs,
non.
Peut-être chez nous, des choses de ce genre. Hein? Non, retenez d'abord le principe d'individuation. C'est-à-dire le fait de réaliser de plus en plus l'identité d'une personne. Il existe des hommes qui, à eux tout seuls, représente tout seul une âme, c'est très rare. On les appelle les yéridim. Yéridim, c'est là. Mais en général, c'est toute une famille, à travers les générations, qui est occupée à l'histoire d'une neshama. Voilà ce que je cherchais tout à l'heure. Quand j'ai commencé des études de psychologie il y a très longtemps, je ne sais pas si c'est les mêmes concepts aujourd'hui, on parlait de l'image. Général de Galton, c'est quelque chose. Pas Dalton, Galton. Voilà, c'est un psychologue qui avait imaginé le processus suivant. Il prenait des photographies de énormément de membres du même famille. Il les projetait toutes sur le même écran. À la longue, apparaissait un visage qui récapitulait tous les visages. C'est-à-dire un visage d'une beauté extraordinaire, angélique. C'est-à-dire, on a fait ça en expérience de laboratoire, c'est la première fois de ma vie que j'avais vu. Sur l'écran, à quoi peut ressembler un ange? Vous voyez, tous les détails individuels s'estompent, apparaît le type, l'image type de la famille. C'est vraiment une beauté angélique, comme on suppose que les anges doivent être s'ils sont comme ça. Vous voyez le problème? Ça veut dire qu'il y a une neshama collective, et puis qui existe à tant d'exemplaires que chaque individu est capable d'en recueillir une parcelle. Vous avez tué à cette idée? Okay. Bon, ce qu'on pourrait appeler en termes simples un type d'une famille. Bon, c'est bien entendu au niveau corporel, à la limite, mais malgré tout, ça peut nous éclairer sur cette notion de la neshama, que pas tous les individus ne sont au même niveau d'incarnation, pour ça donne l'inscription de ce terme, de la neshama. C'est clair? Bon, si c'est pas l'incarnation, je vais quand même essayer de vous écrire un peu. Combien de temps il vous reste?
Regarde.
Il y a une quinzaine d'années, En 68, c'est combien? C'est le roi?
Oui, Bazin.
En quelques heures. J'ai été invité par les instituts catholiques à un colloque. Et qu'ils avaient. Ça vous rappelle quelque chose? Un colloque qu'ils avaient constitué à l'époque, qui avait duré une semaine, enfin, j'étais invité, vous saurez. Et sur la question suivante, vous voulez parler de leur Messie. Qui est ce Messie? Qui est Jésus-Christ? Je veux dire, on n'a pas l'habitude de dire le nom du Dieu, c'est interdit par le Shkonaro. Alors l'habitude qu'on a ici, dans les milieux francophones d'Israël, c'est de dire Jean-Claude, fils. Et alors, l'habitude, si vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Jean-Claude, maintenant vous l'avez dit. Tout à fait. Et alors, donc là, la question était, qui est Jean-Claude? Alors, il m'avait posé la question sur la forme suivante. Dans le récit des évangiles, il raconte que ce personnage s'adresse à des gens en leur demandant, qui dites-vous que je suis? Pour s'entendre dire, tu es le Messie. Alors j'ai fait une conférence, et puis ils ont eu le courage de la rédiger eux-mêmes, à part un ou deux mots, que je n'ai même pas corrigé d'ailleurs, mais à part un ou deux mots qui n'est pas exactement ce que je voulais dire, avec un courage exceptionnel, par exemple, ils ont travaillé des heures là-dessus, parce que je ne voulais pas moi le corriger ça.